Et chemin de traverse, il était une fois une fée jaune, la gentiane. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Troisième épisode de cette série d'émissions consacrée à la gentiane jaune, aux hommes la travaillant, aux différentes utilisations qui en sont faites, à la gestion de la ressource et à son principal terroir français. Bonjour et bienvenue dans le Massif Central, au pied du Sancy, dans la vallée de Chaudefour.
On a une magnifique vallée glaciaire, vallée en U. Et c'est vrai que à chaque saison, cette vallée a son charme.
Éric Vallée, botaniste et conservateur de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, nous a présenté les richesses de la vallée et qui maintenant nous parle de la gentiane jaune. À ce propos, il n'y a pas que la gentiane jaune en vallée de Chaudefour.
Il y a différentes gentianes. Celle dont on parle, qui est...
C'est la jaune.
C'est la jaune, c'est donc la grande gentiane. Mais il y a deux autres gentianes qu'on peut trouver sur Chaudefour, à fleurs bleues. La gentiane printanière, qui pousse sur les parties les plus hautes, au-dessus de 1600 mètres, d'un bleu très pétant, qui est magnifique, très jolie, avec une courte tige, mais qui n'a aucune propriété. Et après, on en a une autre qui s'appelle la gentiane pneumonante, qui vit un peu dans les tourbières et tout. Alors, elle a une forme un peu d'entonnoir. Et elle, par contre, elle a des propriétés pour tout ce qui est maladie pulmonaire. Et c'est cette plante qui pousse au-dessus de 1500 mètres, dans les zones d'altitude, et qui est mangée par les chevaux, mais pas en fleurs, mais au stade de la graine.
Mais les gentianes, il y en a beaucoup, en fin de compte.
Il y a beaucoup d'espèces.
C'est beaucoup d'espèces.
Il y en a dans le monde entier. Il y en a dans le monde entier, et puis au niveau montagne. Bon, il y a certaines espèces qu'on trouve dans les Alpes, qu'on ne trouve pas ici, comme le gentiane de Coq,
D'accord.
Et après nous, on a une autre gentiane, c'est la gentiane croisette, qui n'a pas de propriété, mais qui pousse là plutôt dans les pelouses sèches, dans les endroits où il n'y a pas trop d'engrais, pas sur Chaudefour, mais dans d'autres sites. Mais il y a énormément d'espèces et à travers le monde, oui.
Et sur la gentiane, il y a uniquement la racine qui est utilisée ou est-ce
Uniquement la racine.
D'accord. Mais le reste est comestible, sinon on pourrait en faire quelque chose ou que ce...
Alors, les fleurs sont aromatiques, on pourrait faire des choses avec les fleurs. Sinon, c'est uniquement le rhizome.
D'accord.
Le rhizome qui est utilisé et qui a de très nombreuses propriétés.
Oui, il y a plein de principes actifs à l'intérieur.
Ah oui, on a compté plus d'une vingtaine de principes actifs. Et il y a pas mal de recherches qui sont faites par rapport justement aux principes actifs rencontré dans la gentiane.
Stéphanie Flau, animatrice de l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune.
C'est une plante médicinale à part entière. On s'en sert dans l'industrie agroalimentaire pour ses propriétés amères. Donc c'est plus gustatif. Mais la gentiane est avant tout une plante médicinale avec des propriétés très nombreuses. Certaines plus ou moins étayées d'un point de vue scientifique, mais on peut assurer qu'elle est digestive et apéritive, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord. Après, il y a certaines études qui parlent de plantes qui stimulent les défenses immunitaires, plantes antidépressives, et voilà, il y a plein d'autres choses.
Oui,
j'ai pas tout en tête, mais...
Dans les cadres de programmes de recherche, on a constaté qu'une décoction de racines de gentiane augmentait le taux globule blanc dans le sang. Donc, augmentait les mécanismes de défense immunitaire. Mmh. Et actuellement, on est en train de faire de la recherche pour voir les propriétés anticancéreuses de la gentiane.
D'accord.
Donc là, c'est très prometteur.
Oui, ça rentre vraiment dans la médecine.
Ah oui, c'est une plante qui a d'autres propriétés. Des propriétés apéritives... pour ouvrir l'appétit. Une plante, tout le monde n'aime pas l'amertume, mais une plante qui est très intéressante, mais disons qu'à dose modérée, un peu au niveau des apéritifs, puisqu'elle est très bonne pour le foie, parce qu'elle contient des principes amers. Et toutes les plantes qui contiennent des principes amers sont bonnes pour le foie. Exemple, l'artichaut, le pissenlit, voilà. Et après, très intéressante au niveau digestif et tout... Alors ça se faisait, j'ai entendu, traditionnellement par certains agriculteurs, Autrefois, quand ils faisaient les foins, c'était beaucoup plus dur, hein. Et c'est vrai que dans les campagnes, ben, y en a certains pour se désaltérer, pour couper la soif, faisaient macérer des morceaux de gentiane dans de l'eau fraîche. Et ça permettait de désaltérer, puis ça donnait de la pêche une certaine force. C'était un puissant, justement, c'était un puissant tonique.
Un peu d'histoire. L'histoire de la gentiane remonte à la nuit des temps. En Chine, où poussent de nombreuses espèces de gentiane, la médecine traditionnelle l'utilise depuis plus de 5000 ans pour ses vertus thérapeutiques. En Inde, depuis 2000 ans, la Ayurveda préconise les racines de gentiane au moins comme tonique générale. La plus utilisée reste notre gentiane jaune, l'UTHL, pour la taille de ses racines. En Europe, c'est dès l'Antiquité que les hommes utilisent la gentiane pour son goût amer et de ce fait, ses différentes propriétés. La réputation de la gentiane ne cesse de croître de l'Antiquité grecque et romaine jusqu'aux croisades. Son usage répandu fait qu'au Moyen-Âge, elle devient le remède universel par excellence. Le résultat de cette notoriété, la gentiane figure alors dans la plupart des flores et des traités médicaux en Europe. À la Renaissance, cette notoriété est toujours aussi forte. Au XVIIIe siècle, elle garde sa place dans la pharmacopée. Au XIXe et jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les plantes en général appartiennent encore à la médecine traditionnelle. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, elle va passer comme de nombreuses plantes dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. Elle est transformée alors en médicament. Et comme nous l'ont dit Stéphanie Flahaut et Éric Vallée, de nombreuses recherches sont alors réalisées à notre époque sur les différents composants et principes actifs de la gentiane pour leur utilisation en médecine. Allez, après ce petit point historique, revenons à notre gentiane jaune, la grande gentiane, et ce qu'elle représente pour Éric Vallée, notre botaniste et conservateur de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour.
Et vous, la gentiane, c'est quelque chose que vous aimez bien
Ah, j'adore, oui.
Autant comme boisson que comme plante, d'ailleurs.
Ah, j'adore.
Le botaniste, façon, j'adore le botaniste et la gentiane.
Après, au niveau des recettes, il y a des choses sympas. Bon, alors, au niveau de la gentiane, bon, déjà, on peut la boire pure, hein, mais on peut rajouter aussi des écorces d'orange amère, des écorces de citron. Ça améliore bien et tout. Alors, si on ne supporte pas l'amertume, il est conseillé d'ajouter un peu de sirop de framboise ou un sirop de cassis.
Oui.
Ça atténue bien l'amertume. Et la gentiane, alors, ici, bon, c'est pas très toujours connu, mais il y a le trou auvergnat. Alors, le trou auvergnat, parce que bon, c'est une plante de montagne qu'on trouve beaucoup en Auvergne, la gentiane. À quoi ça consiste? Eh bien, c'est d'acheter une glace au chocolat. Hein. Parce qu'en plus, le chocolat, c'est amer. Et on rajoute de la liqueur de gentiane avec. Et l'amertume du chocolat se marie très bien avec l'amertume de la gentiane. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de... Bon, ici, la spécialité au niveau de la viande, c'est le pavé de salaire. Hein.
Mmh.
Et on peut faire aussi une sauce avec le pavé de salaire, une sauce à la gentiane. Hein. Et pour atténuer justement cette amertume, on peut rajouter un peu de sucre roux. Hein, voilà. Et puis après, c'est pareil, il y a des spécialités, il y a certaines personnes qui font certains produits avec la gentiane. Et je pense en particulier le confit de gentiane fait par Michel Bafoil, hein, et on peut déglacer, ça se marie très bien au moment des fêtes avec le foie gras. Et on peut faire aussi, c'est pareil, des sorbets à la gentiane. Ouais. Comme je vous dis, c'est très, très rafraîchissant.
J'en ai goûté des...
On peut faire plein de choses.
Sur ses alliés, j'ai rencontré une personne qui fait des crèmes glacées. Une crème glacée à la gentiane.
Bon, c'est très bon. Enfin, il faut aimer l'amertume, comme de tout.
C'est très bon. Donc, vous êtes pro-gentiane.
Je suis pro-gentiane.
Enfin, mais... en tant que botaniste, de la
plante. Ah oui, non, mais ça, déjà, je trouve au niveau de la plante, elle est magnifique.
Ben oui, quand c'est fleuri, l'été.
Quand c'est fleuri, c'est grande ampe florale jaune. Donc, une plante très, très gracieuse, qui a embelli aussi les prairies. Hein. C'est très joli, hein, mm-hmm. Non, mais ça, c'est... Et en plus, avec d'autres plantes à côté, c'est vrai que ça a tout son charme.
Ça agrémente bien la montagne.
Tout à fait.
En plus de tout le reste. Mais bon.
Ah oui, non, mais tout à fait, c'est sympa. Hein.
Ouais.
Et c'est vraiment... Et puis, il y a le côté aussi pastoral avec la vie des troupeaux, avec les burons autour, où vivaient les bergers, voilà. C'est tout un ensemble.
Oui, parce qu'il y a toute une histoire, parce qu'en fin de compte, la gentiane, de ce que j'ai pu lire, tout le monde faisait sa gentiane.
C'est exact. Fait
toujours sa gentiane. Fabriqué,
oui, traditionnellement, oui.
Parce que les gens appellent ça gentiane, ils n'appellent pas ça la liqueur de gentiane.
C'est la gentiane, on parle de gentiane, oui.
Éric Vallée vient de nous parler de l'utilisation de la gentiane en tant qu'apéritif ou dans la cuisine. Mais justement, à quand remonte l'utilisation de la gentiane pour le plus grand plaisir du palais, son côté gustatif? Alors, cela remonte à pas si longtemps que cela, puisque les usages de la gentiane sont restés du domaine quasi exclusif des médecins et des apothicaires de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on ne parle que de liqueurs apéritives ou digestives. Elles flattent le palais, mais il est toujours prêté à ces boissons des vertus thérapeutiques. Le mot apéritif n'apparaît que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et c'est alors le développement de nombreuses marques et distilleries qui vont voir le jour, dont certaines, ayant traversé les siècles, sont toujours présentes. Au fil des épisodes, leur histoire nous sera contée.
Pour vous, je reviens sur le côté botaniste, la gentiane, elle a un petit coin particulier dans votre cœur, dans votre passion de botaniste ou...
Disons que ce n'est pas la plante que je préfère, mais ça fait partie des plantes qui sont au top. Hein. Parce que justement, disons que c'est une plante qui a différentes utilisations. Hein. C'est intéressant parce que moi qui m'intéresse beaucoup à l'herboristerie, hein, il faut reconnaître que cette plante a déjà pas mal de propriétés. Et on continue à faire de la recherche. Et peut-être, elle peut être utilisée aussi pour d'autres symptômes. Hein. Ça, c'est intéressant de ce côté-là. En plus, c'est une plante qui a du goût. Hein.
Oui, parce qu'elle est amère et elle a du goût.
Elle a du goût.
Elle a du goût.
Hein. Et elle permet justement de s'intéresser au niveau social et tout, d'expliquer les activités au niveau du terroir. C'est-à-dire qu'elle pousse pas là par hasard, hein. C'est parce qu'il y a des agriculteurs, parce qu'il y a eu certaines activités agricoles qu'elle est présente. Donc elle fait partie du patrimoine local.
Oui, elle est très liée aux hommes en fin de compte.
Très liée aux hommes, oui, tout à fait.
À l'activité humaine.
À la vie locale, tout ça. Et en plus, c'est une plante vraiment caractéristique de montagne. Elle colle bien, justement, au terroir. Au niveau du massif central, sur ces... Bon, j'ai parlé là du massif du Sancy, mais on la trouve aussi dans le Césalier, très présente dans le Césalier. On la trouve aussi sur l'Aubrac. Hein. Voilà, elle est vraiment caractéristique de ces plateaux basaltiques. Voilà.
Mais en France, on la trouve ailleurs, dans les Alpes.
On la trouve dans le Jura, on la trouve... Oui.
Mais elle aime bien les terres volcaniques.
La terre volcanique, et puis justement, comme je vous disais, des endroits où il y a eu du pâturage, où il y a du pastoralisme. Voilà.
Ouais.
Et ce n'est pas uniquement le terrain, mais c'est aussi les activités
qui se font sur le
territoire.
L'activité humaine qui font que...
Voilà, elle est vraiment liée aux activités humaines. Et du reste, c'est assez parlant, parce que des fois, on voit certaines prairies où des fois, il reste des gentianes, tout ça, des prairies abandonnées. Et on dit, il y a quelques années, là... Il y avait des vaches qui pâturaient, voilà. Elle témoigne de l'histoire locale. Et, ou alors on peut dire aussi, par exemple, cette prairie n'a pas été trop prairie de fauche et tout ça. Sinon, si ça avait été une prairie de fauche, on n'aurait pas trouvé la gentiane, parce qu'on ne trouve pas les mêmes espèces. Que la gentiane, c'est vraiment une caractéristique des prairies pâturées par les animaux.
La gentiane, plante emblématique du massif central, témoin de l'histoire des hommes. Lors de notre prochain rendez-vous, avant de repartir à Picherande pour la fête de la gentiane, Éric Vallée nous parlera des licoristes. Au revoir et à très bientôt.